Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Nous allons ouvrir aujourd'hui notre Bible dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8, verset 2. Livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers, et de grenadiers, pays d'oliviers et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pierres sont du fer, et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Et nous arrêterons ici notre lecture. Nous avons lu ce texte dans le livre du Deutéronome. Mais le livre des Nombres nous révèle l'expérience du peuple de Dieu dans le désert et avec force détail. Dans le livre de l'Exode, Dieu délivre son peuple de l'esclavage de l'Égypte et de la puissance du Pharaon. Nous le savons, le sang de l'agneau de la Pâque mis par les enfants d'Israël sur les linteaux et les poteaux des portes assure au peuple de Dieu un abri contre le jugement divin. La mer Rouge le sépare à jamais de l'Égypte, qui pour nous chrétiens représente le monde. En résumé, le message central du livre de l'Exode est, je dirais, symboliquement et prophétiquement, celui du salut de notre âme par le sacrifice de Christ, notre rachat par l'offrande du corps de Jésus sur la croix. La Bible dit « Christ, notre Pâque, a été immolé ». 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Et encore, « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. » 1 Épître de Pierre, chapitre 1er, les versets 18 à 20. Délivré du péché par le sang de Jésus, délivré de la puissance des ténèbres, nous appartenons désormais à Christ, nous nous séparons du monde pour aimer et servir notre Maître, ainsi que l'apôtre Paul l'écrit. Vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Jésus lui-même déclare à ses disciples, vous n'êtes pas du monde et je vous ai choisi du milieu du monde. Jean chapitre 15 verset 19. Et encore, moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Jean chapitre 15 verset 16. Tel peut être résumé en quelques mots le message du livre de l'Exode. Quant au Lévitique, dans le Lévitique, l'Éternel parle à Moïse de la tente d'assignation. En effet, voici le premier verset de ce livre. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, nous savons que c'est le tabernacle, il lui parla et dit, Lévitique chapitre 1er, verset 1er. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, il lui parla. Autrement dit, Dieu parle à Moïse depuis le sanctuaire et il lui donne toutes les instructions qui s'y rapportent. En particulier, vous connaissez votre Bible, l'institution des divers sacrifices qui sont là encore des images de l'œuvre accomplie par notre Seigneur Jésus. Et le chapitre 16 de ce livre, du livre du Lévitique, qui se trouve du même coup au centre des livres de Moïse, j'entends Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ce chapitre 16, qui est au milieu des livres de Moïse, nous montre comment Dieu pouvait demeurer au milieu de son peuple sur la base des sacrifices, la base du sacrifice de Christ représenté par les offrandes du grand jour des expiations. Je vous invite d'ailleurs à relire ce chapitre 16 du Lévitique dans votre méditation personnelle de la parole de Dieu. Le message du Lévitique, est donc l'annonce de la communion possible avec Dieu par le sacrifice parfait de Christ. La Bible dit, « Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. » Hébreux chapitre 10, les versets 19 et 20. L'apôtre Paul écrit, « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 9. En ce qui concerne le livre des Nombres, dans le livre des Nombres, l'Éternel s'adresse à Moïse au désert. Il est dit au chapitre 1er, verset 1er, « L'Éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï. » Le peuple va quitter Sinaï, reprendre la marche à travers le désert, et Moïse va en faire le résumé en ces termes. « Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. » Deutéronome chapitre 1er verset 19. Dans ce désert, le peuple de Dieu va être mis à l'épreuve. Et à cet égard, l'accent va être mis sur la responsabilité du peuple en marche vers le pays promis. En effet, 11 journées suffisaient pour atteindre le but, atteindre le pays promis. La Bible dit, dans Deutéronome chapitre 1er verset 2, « Il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir, jusqu'à Kadès-Barnéa. » 11 journées. Mais le peuple mettra 40 ans. Mais n'anticipons pas. Dans ce désert, Dieu a pourvu à tout. Mais comment son peuple va-t-il se comporter? Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose qui peut vous surprendre. La vie chrétienne peut s'écouler à la fois dans le désert et dans le pays promis. Le chapitre 8 du livre du Deutéronome, dont nous avons lu une grande partie, nous aide à comprendre cette différence. Les versets 2 à 6 et 14 à 16, vous pourrez les relire, soulignent les caractéristiques du désert. Et au travers de cette longue marche dans un milieu hostile, aride, Dieu avait un but, humilier et éprouver son peuple. Il est écrit en effet, « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. » Donc chapitre 8, verset 2. Quelle est donc l'expérience du désert? Dans le désert, les enfants d'Israël ont éprouvé la faim. Dieu y a pourvu en donnant la manne. Et la manne pour nous, nous le savons, c'est Christ, le pain vivant descendu du ciel. D'ailleurs, il disait à la foule, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Je suis le pain de vie. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meurt point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Nous avons ces magnifiques paroles dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Quelle insistance dans la bouche de Jésus pour réaffirmer sans cesse qu'il est le vrai pain, le pain de vie descendu du ciel. Avons-nous compris la nécessité de la communion de Christ? Vivons-nous de lui? Nous nourrissons-nous de sa personne, de sa vie, de ses perfections, de ses pensées, de ses sentiments? Est-ce là notre aliment quotidien? Dans le désert, le peuple de Dieu a ressenti la soif. Eh bien, Dieu y a pourvu, en faisant jaillir l'eau du rocher. Et pour nous chrétiens, nous le savons aussi, l'eau du rocher est cette source intarissable qui nous parle à la fois de Christ, du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. De Christ, il a dit à la femme samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » L'eau du rocher nous parle aussi du Saint-Esprit. Là encore, Jésus dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais l'eau du rocher nous parle également de la parole de Dieu. Paul écrit aux Éphésiens, « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau par la parole, afin que lui se présentât l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. » Éphésiens chapitre 5, les versets 25 à 27, mais je viens de vous les lire dans la version Darby. Frères et sœurs, dans notre désert, toutes les ressources divines sont à notre disposition en Christ. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Romains chapitre 8, versets 31 et 32. Et encore, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Colossiens chapitre 2, les versets 9 et 10. Au désert, le peuple de Dieu a fait l'expérience de la bonté de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années, avons-nous lu dans le chapitre 8 du Deutéronome au verset 4. Vous imaginez cela? Une marche de 40 années et des vêtements qui ne s'usent jamais. Une marche de 40 années et des pieds qui ne subissent aucune conséquence douloureuse d'un si long pèlerinage. Jésus nous a enseigné à faire confiance à notre Père Céleste qui prendra soin de nous chaque jour. Ne nous inquiétons donc pas pour la nourriture, le vêtement, la santé. Dieu, dans sa bonté, pourvoira à tous nos besoins. Mais au désert, on expérimente aussi la discipline du Seigneur. Reconnais en ton cœur que l'Éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant, avons-nous lu au chapitre 8, verset 5. Il arrive, vous le savez, dans notre marche chrétienne, que Dieu soit obligé d'avoir recours à cette discipline, qui est d'ailleurs rappelée dans l'Épître aux Hébreux. Supportez le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Donc, Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 7 à 11. J'ai dit au début de mon message que dans le désert, le peuple de Dieu allait être mis à l'épreuve. Ne pensez surtout pas que cette mise à l'épreuve n'avait pour seul but que de montrer ce qui était dans le cœur des enfants d'Israël, en vue d'amener un jugement de soi-même et la conscience de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Dieu poursuivait un autre but, faire du bien à son peuple au temps voulu. Il est écrit en effet, « Afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. » Deutéronome, chapitre 8, verset 16. Laissez-moi vous parler maintenant du pays de la bénédiction, comme je l'appelle, le pays promis, Canaan, qui fait suite au désert. Tout cela apparaît dans les versets 7 à 10 de notre lecture. Et vous remarquerez que dans ce pays de la bénédiction, comme nous allons l'appeler maintenant, l'eau y abonde. Et elle y abonde sous forme de ruisseaux, de sources, d'eau profonde. En effet, il est écrit, « L'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. » Verset 7. Dans ce pays de la bénédiction, la nourriture variée ne manque pas. Pays de froment, d'orge, de vigne, de figuier et de grenadier, pays d'olivier et de miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Versets 8 et 9. Dans ce pays promis par Dieu, le peuple de Dieu allait bénéficier de toutes les ressources pour bâtir et pour combattre. Pays dont les pierres sont du fer et des montagnes duquel tu tailleras les reins. Verset 9. Je veux le rappeler avec force ici, le pays promis, Canaan, n'est pas l'image du ciel comme on l'entend si souvent et comme on le chante à tort. En Canaan, Israël a dû livrer bataille contre de nombreux ennemis. Or, rassurez-vous, au ciel, il n'y aura pas d'ennemis et nous n'aurons pas à livrer de bataille épuisante. Non, le pays promis, le lieu de la bénédiction, c'est le pays où l'on est rassasié, où l'on est comblé, et il s'agit de notre position actuelle dans le Christ Jésus. Le pays promis, c'est la vie en Christ. Le pays promis, c'est la vie de résurrection avec Christ, telle que nous la présentent les épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Par exemple, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 3. Bien-aimés, Le voilà, votre pays promis. C'est la vie en Christ, la vie avec Christ. Ce pays, comme je l'ai dit, est aussi un lieu de combat. On n'est donc pas encore dans le ciel et les ennemis spirituels subsistent. Ainsi que le déclare d'ailleurs l'apôtre Paul dans son épître aux Éphésiens. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, écrit-il, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Chapitre 6, les versets 12 et 13. Même dans le pays, il est nécessaire de revêtir l'armure complète de Dieu. Vous comprenez? C'est un combat où la victoire est assurée par la foi. Une dernière pensée. Entre le désert et le pays promis, deux aspects de notre vie chrétienne, nous l'avons compris, entre le désert et le pays, il fallait traverser le Jourdain. Je m'adresse à des frères et sœurs qui connaissent leur Bible. Vous savez qu'au milieu du Jourdain, 12 pierres avaient été dressés sur l'ordre de l'Éternel. Et ces 12 pierres sont une figure de notre vieille nature, de notre mort avec Christ. Notre chair a été livrée à la mort avec Jésus et en Jésus. Mais vous savez aussi que 12 autres pierres avaient été retirées du milieu du Jourdain pour être dressé ensuite à Gilgal. Et ces 12 pierres sont une figure de notre résurrection avec Christ pour vivre cette vie d'abondance dont il a parlé. « Moi, je suis venu, dit-il, afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » En conclusion, je vous dirai ceci. L'apôtre Paul déclare « Toutes ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » 1 Corinthiens 10, verset 11. Vous savez, ces récits de l'Ancien Testament ne sont pas seulement intéressants en eux-mêmes du point de vue historique, mais ils ont une signification spirituelle précise pour notre vie chrétienne. C'est pourquoi Paul tire immédiatement deux conclusions dans les versets qui suivent. La première, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, c'est 1 Corinthiens chapitre 10, donc le verset 12. Et je dirais que c'est le côté de notre responsabilité personnelle, l'avertissement à notre conscience, prenons garde de tomber. Et la seconde conclusion tirée par l'apôtre Paul, il écrit « Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Et ça, c'est l'autre côté, celui de la fidélité de Dieu. Il y a notre responsabilité personnelle et il y a aussi la fidélité de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la consolation pour nos cœurs et c'est aussi la base de notre foi dans cette marche au désert. Amen.